Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59 sur RMC et il fait beau, Anthony.
Eh oui, un air de printemps encore pour ce mardi. Un temps très sec, très ensoleillé, à l'exception du Languedoc-Roussillon, des Cévennes et de l'Est de la Corse, où là vous aurez nuages, averses et vent. Et puis en cours d'après-midi, quelques passages nuageux en guise de décor près des côtes de la Manche ou encore vers le Massif central et un petit voile entre les Pyrénées, la Provence et la Côte d'Azur. Les températures, on part de 1 degré ce matin en Alsace et en Lorraine jusqu'à 12 degrés à Toulouse et en cours d'après-midi, très grande douceur avec souvent entre 16 et 19 degrés, jusqu'à 20 pour Ajaccio.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Excellente journée à tous, merci d'avoir choisi RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous serons au Liban dès le début de ce journal avec les deux journalistes de RMC en direct sur place. Elles nous raconteront la nouvelle nuit de bombardement puisqu'il y a encore eu des frappes toute la nuit visant le Liban et l'Iran aussi qui a riposté. On va y revenir longuement. On verra les conséquences en France avec déjà des files d'attente devant les stations-service. Il y a la crainte d'une pénurie de carburant. Et que faire des 400 000 Français bloqués en ce moment dans cette région du monde? Le ministre des Affaires étrangères est l'invité d'RMC ce matin.
Nous sommes en direct du Liban ce matin sur RMC.
Au quatrième jour du conflit au Moyen-Orient, Israël dit donc avoir mené des frappes ces dernières heures, des frappes simultanées visant l'Iran et le Liban. Le Liban, c'est là où se trouvent depuis hier donc les deux envoyés spéciaux de RMC en direct ce matin, Inès Zegloul, Marion Gauthier. Marion, vous confirmez, il y a eu des bombardements encore cette nuit.
Oui, dès notre arrivée à l'aéroport, l'armée de l'air israélienne bombarde très régulièrement depuis l'aube sur des villages à la frontière avec Israël, sur la banlieue sud de Beyrouth, qui est comme plongée dans un brouillard épais ce matin. Le Hezbollah affirme de son côté avoir ciblé 3 bases militaires en Israël. Et je me suis rendue chez Rita, dans le quartier chrétien de la capitale libanaise, télévision allumée, à regarder les panaches de fumée sur son pays.
Je pense qu'on est épuisé, moralement, physiquement, les pénuries, la panique des gens. C'est toute l'atmosphère du pays qui en pâtit. On s'est retrouvé réembarqué dans une guerre pour laquelle on n'a rien demandé. On n'est quand même pas aux frontières de l'Iran, donc je ne comprends pas pourquoi on va détruire un pays, une infrastructure, des rêves, un avenir pour des jeunes, des gens qui sont dans les rues parce qu'il n'y a pas d'endroit où ils vont loger. Tout ça, c'est épuisant.
Cela ne prendra pas des années. Ce ne sera pas une guerre sans fin, a assuré le Premier ministre israélien hier, Benjamin Netanyahou, qui a justifié l'attaque contre l'Iran. Il fallait éviter que les programmes nucléaires et de missiles balistiques soient trop développés, enterrés, qu'ils deviennent, dit-il, intouchables.
Marion Gauthier avec Inès Zegloul, les deux envoyés spéciaux d'RMC, donc en direct ce matin de Beyrouth au Liban. Les États-Unis de leur côté disent qu'ils ont détruit des postes de commandement des gardiens de la révolution cette nuit en Iran. Mais alors l'autre fait marquant de la nuit, c'est la riposte de l'Iran qui a visé l'ambassade américaine à Riyad en Arabie Saoudite. Réaction immédiate des États-Unis qui ferment plusieurs de leurs ambassades dans la région, qui évacuent du personnel diplomatique et qui appellent aussi les Américains à fuir cette région dès maintenant par des vols commerciaux. Le souci, c'est qu'il y en a très peu. Le trafic aérien semble quelque peu reprendre depuis les Émirats Arabes Unis ce matin avec plusieurs vols vers l'Europe qui ont décollé au départ de Dubaï et d'Abu Dhabi. Mais c'est insuffisant pour la quantité de personnes en voyage ou en transit dans la région. Le Quai d'Orsay estime que 400 000 Français s'y trouvent en ce moment. C'est le cas, par exemple, et vous allez l'entendre, de Mirvette, une Française de 62 ans qui a composé le 32-16. Elle nous a téléphoné à RMC ce matin, très tôt, pour raconter qu'elle est bloquée à Dubaï où elle rend visite à sa famille installée là-bas.
Nous sommes confinés à la maison, il n'y a pas d'école, il y a des moments où c'est vraiment très tendu, ça vibre de partout, les explosions, on les entend fortement. Et je suis avec mes petits-enfants et ma fille et mon gendre. Et en tant que grand-mère, reconforter les enfants qui paniquent et qui pleurent quand ils entendent ces explosions, ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas d'abri. Je viens d'apprendre tout de suite que apparemment certains vols seraient probablement possible aujourd'hui. On aimerait bien rentrer chez nous.
Alors, contrairement à l'Allemagne et à l'Italie, la France n'organise pas de rapatriement pour ses ressortissants. On verra ce qu'en dit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui sera l'invité des RMC tout à l'heure à 8h30 au micro d'Apolline, au lendemain d'un troisième conseil de défense qui se tenait hier soir à l'Élysée. Et alors, il y aura désormais des réunions tous les jours à Bercy, se consacrer au prix de l'énergie et au commerce mondial, à l'arrêt, vous le savez, avec le blocage du détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole mondial. Et effet immédiat, chez nous en France, on constate déjà dans de nombreuses villes des files d'attente plus importantes que d'habitude dans les stations-service, c'est ce que nous dit Romain Houck pour RMC.
Ce sont des automobilistes inquiets qui font la queue dans les stations essence. De Marseille à Calais, en passant par Niort, il faut s'armer d'un peu de patience pour faire le plein. C'était le cas aussi à Villeneuve-Loubet, près de Nice, hier après-midi.
Moi, j'ai la moitié du plein. Je préfère quand même assurer mes arrières en tant qu'artisan, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de route à faire.
Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde, mais ça m'étonne pas, en fait, à vrai dire. Parce que je pense, il y a là 2-3 infos qui sont sorties sur le plus d'essence, l'augmentation de l'essence. Ça donne ça.
Mais pour l'instant, pas de raison de s'alarmer, dit ce matin sur RMC l'économiste Anne-Sophie Alsif. Selon elle, l'heure n'est ni à l'explosion des prix, ni aux pénuries.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis la crise avec le Covid? C'est que les producteurs de pétrole ont énormément produit. En termes d'offres et de demandes, finalement, vous avez beaucoup d'offres, moins de demandes. Et au niveau européen, il y a des mécanismes justement qui existent pour éviter qu'on ait des explosions.
D'autant que la France dispose de 90 jours de stock stratégique d'hydrocarbures, assure de son côté Francis Pousse, le président national station-service du syndicat Mobilience. Inutile donc, assure-t-il, de se ruer à la pompe.
Pour être tout à fait complet, de fortes explosions viennent d'être entendues à l'instant, rapportent des journalistes à Téhéran, la capitale de l'Iran. Et ce conflit qui en est à son quatrième jour a pour effet de faire dégringoler les marchés. Les places boursières ont terminé cette nuit dans le rouge en Asie, moins 7% par exemple pour la bourse de Séoul. C'est la chute la plus importante donc de ces dernières heures. On connaît, ce matin, chez nous en France, le montant de la facture. Les assureurs évaluent à 1,2 milliard d'euros le coût des dégâts de la tempête Niels et des inondations dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines dans l'ouest de la France. On est au lendemain du verdict au procès en appel des 4 hommes qui étaient rejugés pour leur rôle dans l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty en 2020. 3 des 4 peines prononcées hier soir ont été allégées. La plus lourde, celle de 15 ans de réclusion, reste inchangée. Et alors, on va reparler aujourd'hui, et vous vous en souvenez très certainement, de la mort d'Elisa Pilarski, il y a 6 ans, cette jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, qui avait été retrouvée morte et même mutilée dans un bois de laine. Elle promenait ce jour-là le chien de son compagnon, Curtis, s'appelait le chien, compagnon qui sera jugé à partir d'aujourd'hui à Soissons. Constance Bostoen du service police-justice à RMC, pourquoi ce compagnon jugé? Eh bien parce que c'est son chien qui est accusé d'avoir mordu à mort la jeune femme.
Oui, la mère d'Elisa Pilarski attend que Christophe Ellul, l'ancien compagnon de sa fille, prenne ses responsabilités, car elle est persuadée que c'est bien son chien Curtis qui est à l'origine de la mort de sa fille, comme elle l'exprimait en 2022 sur le plateau de BFM TV.
Elisa a promené Curtis dans la forêt. Ils ont entendu en même temps des chiens de chasse à court, du bruit, beaucoup d'aboiements. Je pense qu'Elisa a eu peur, malgré qu'elle était enceinte de 6 mois, est-ce qu'elle a voulu le prendre dans les bras et s'est retournée contre elle.
Les chiens de la chasse à court ont été mis hors de cause par l'enquête. En revanche, ce qui interroge les enquêteurs, c'est le profil même de Curtis. Importé illégalement des Pays-Bas par son maître, il était exercé au mordant, une technique de dressage interdite en France, qui pour autant ne le rendait pas dangereux, selon Alexandre Novion, l'avocat du prévenu.
Il n'y avait aucun élément de nature à pouvoir lui donner le moindre signe avant-coureur permettant effectivement de lui faire prendre des mesures drastiques de séparation ou d'éloignement qui consistaient à empêcher Elisa de manier ce chien.
Christophe Ellul risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Curtis, lui, est en captivité depuis les faits, toujours considéré comme un scellé.
Et alors, c'est confirmé en football, Kylian Mbappé souffre bien d'une entorse au genou. L'attaquant du Real et des Bleus qui a été examiné par un médecin spécialiste, un Français. Hier, il est venu à Paris, Kylian Mbappé. Il devrait échapper à l'opération, mais il n'y a aucun délai qui a été prononcé pour son retour.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, le blocage du détroit d'Ormuz provoque une perturbation sans précédent de tout le commerce mondial.
Oui, et d'abord pour une raison assez simple, c'est que jamais ce détroit n'avait été fermé, même dans les périodes de fortes tensions qu'on a connues par le passé. On pense notamment à la guerre entre l'Iran et l'Irak. Le gaz et le pétrole, évidemment, ça pose un problème. C'est évident, mais on ne va pas y revenir, tout le monde le sait. 20% environ de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié passe par ce détroit, mais il n'y a pas que les hydrocarbures qui passent par ce détroit d'Ormuz, il y a aussi toutes les marchandises qui arrivent au port de Dubaï. Or, il faut rappeler que le port de Dubaï, Jebel Ali, c'est le 10e port mondial de conteneurs. C'est la plaque tournante de la redistribution pour plus d'une dizaine de pays dans la région. Et donc, dans ce port, les porte-conteneurs sont déchargés sur des bateaux plus petits à destination de pays allant de l'Afrique de l'Est à l'Inde. Donc, c'est une perturbation déjà régionale.
Quand on regarde ce qu'il y a sur ces bateaux, justement, c'est quoi ? Quelles sont les marchandises qui passent par le détroit d'Ormuz ?
Il y a des voitures, il y a des machines, il y a des produits industriels qui viennent d'Allemagne, par exemple. Depuis la France, ce sont surtout des céréales et des produits agricoles, des cosmétiques, des produits de luxe et pharmaceutiques. L'Italie, elle, exporte surtout de l'agroalimentaire, beaucoup de marbre, des céramiques. Les Pays-Bas, de l'agroalimentaire aussi. Ça, c'est ce qu'on envoie vers cette zone. Et puis, dans le sens de l'exportation, outre les produits pétroliers et gaziers, il y a des engrais, plastiques. Le Moyen-Orient, c'est 9% de la production mondiale d'aluminium, dont la quasi-totalité est exportée.
Alors, j'ai dit d'ailleurs, passe par le détroit. Mais c'est faux, parce qu'on ne passe pas par le détroit. On en sort. Ça n'est pas sur la route. Et c'est malgré tout ce qui permet de se dire que tout n'est pas fichu pour le commerce mondial.
Alors, ce qui est subtil, c'est qu'en fait, ce détroit d'Ormuz, effectivement, c'est un cul-de-sac. Donc, il n'est pas primordial, apparemment, sur la grande route commerciale entre l'Asie et l'Europe, puisque cette grande route commerciale entre l'Asie et l'Europe, elle ne passe pas à l'est de l'Arabie Saoudite par ce golfe, par ce détroit d'Ormuz. Elle passe plutôt à l'ouest par la mer Rouge et le canal de Suez. Sauf que les armateurs ont décidé aussi d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez en raison des craintes liées à la reprise d'attaque des outils. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh ben, ces grands armateurs, ils ont décidé de passer par le cap de Bonne-Espérance, donc de contourner par la pointe de l'Afrique, ce qui rallonge le parcours d'une dizaine de jours pour un surcoût de 30% environ. Et d'ailleurs, il y a plusieurs plateformes d'e-commerce qui ont prévenu leurs clients que leur temps de livraison allait se rallonger. On a dit quelques jours chez Temu et Shein, une dizaine de jours pour Amazon, avec un surcoût de transport. Alors, il faut savoir que le coût de transport, c'est entre 1 et 5% des marchandises qu'on achète. Donc, si vous achetez, par exemple, un colis à 100 euros chez Temu ou chez Shein, il faut s'attendre à ce que le surcoût, voilà, ce soit jusqu'à 3, 4 euros, 5 euros.
C'était donc l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Il est 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30, notez-le, mon invité dans le face-à-face sur RMC et BFM TV, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Juste après, Nicolas Canteloup, face à Canteloup, tous les jours en direct sur RMC à 8h50. Restez bien avec nous, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14, Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud.
Mais oui, bonjour. Bonjour, je suis là pour vous faire passer un moment feel good. On en a besoin. Un moment feel good pour commencer cette chronique. Car, Apolline, un petit éléphant est né au zoo de Beauval. Il est avec nous. La maman se porte bien et c'est tellement mignon. Et une autre actu feel good, Apolline. On va tous crever.
Non.
J'ai lu dans le magazine Science et Avenir que l'horloge de l'apocalypse, vous voyez, c'est le truc qui symbolise l'imminence de l'apocalypse nucléaire avec une pendule.
D'accord.
Eh bien, elle a été encore rapprochée de minuit. Elle est à 85 secondes avant l'apocalypse. Donc le feu nucléaire est proche. Alors petit message à toutes les filles qui, depuis mon adolescence, ont dit qu'elles ne coucheraient avec moi qu'en cas de fin du monde. Hello. Vous connaissez mon Instagram. Je prends une douche et je suis à vous. Allez, l'actu. Eh bien l'actu, Apolline, ce sont les juifs. Enfin, c'est... Exactement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est accusé d'antisémitisme à cause de sa manière de faire semblant de se tromper quand il prononce des noms juifs, ce qui est en creux une manière d'insister dessus. Hein. Donc ce week-end, c'était Jeffrey Epstein, il a dit « Epstein, ça fait plus russe, comme ça, tout le monde sait bien comment il faut faire, clin d'œil, clin d'œil !» Sous-entendu, Epstein, c'était la vraie prononciation. Et puisqu'on a changé la prononciation, c'était pas pour rien. Clin d'œil, clin d'œil. Et donc là, il a récidivé en disant « Raphaël Glucksmann, n'est-ce pas ?» Et Marine Le Pen direct « Oh, papounet, tu es de retour. Non, lâchez-moi, madame. Je suis un dur à cuire. et non pas un dur à four crématoire, n'est-ce pas ? Oh, c'est exactement ce qu'aurait dit papa. Et oui, clin d'œil, clin d'œil. Ben non, si je cligne d'un œil, je vois plus rien. Décidément, la réincarnation est parfaite.
Elle est parfaite, cette réincarnation.
Alors, en matière d'antisémitisme, on sait que c'est très important, la prononciation. Hein. Si vous dites, dans mon quartier, il y a une synagogue, ok. Si vous dites, dans mon quartier, il y a une synagogue. On sent que le gars est pas content qu'il y ait une synagogue dans son quartier. Bah, Mélenchon, c'est un peu ça. Jamais il va dire, mes amis, n'oubliez pas qu'il y a des juifs parmi nous. Il va dire, mes amis, n'oubliez pas qu'il y a des juifs parmi nous. Et après, il envoie Manuel Bompard faire le SAV.
Service après-vente
de Mélenchon. Alors,
Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon encore dérapé.
Mais pas du tout, madame, il a dit qu'il y avait des juifs parmi nous, car chez les insoumis, on accepte tout le monde.
Non, non, il l'a pas dit comme ça.
Ah bon? Vous savez mieux que Jean-Luc Mélenchon, ce que Jean-Luc Mélenchon a dit? Non, madame, on accepte tout le monde, que ce soit les juifs ou les gens normaux.
Ah voilà, alors, c'est ça.
Hier, Mélenchon s'est excusé, ouais. Il a dit, j'ai pas fait exprès. Aucune des 13 fois j'ai fait exprès. Tout ça, c'est la faute des médias. Ah, mais... Et les médias, on sait par qui ils sont tenus, madame. Hein, par les... Oh non, encore dérapé. Oh, oh papa. La revoilà.
Date de boulevard.
La guerre en Iran.
Ah oui, non, mais là, c'est des marionnettes, des effets spéciaux, des feux d'artifice.
La guerre en Iran se poursuit, Arnaud.
Oui, et Ali Khamenei est mort. Il faut désormais chercher un nouveau guide suprême en Iran. Ça ne doit pas être une place très enviée en ce moment. Il doit être... Bon, les gars, qui veut être le nouveau guide suprême?
En ce moment, ça m'arrange pas. Hein. J'ai les gosses à garder, le petit fait pas ses nuits.
Bon, toi, ça te dit ?
Non, moi, non, non. D'ailleurs, je suis même pas musulman, moi. Hein. Je suis pas.
Bah, t'es imam quand même.
Oui, mais bon, c'est le marché de l'emploi en ce moment.
Bref, personne veut y aller. Alors, sur Ali Khamenei, j'ai lu un truc extraordinaire sur le site d'Euronews, des témoignages de proches et des amis de l'ex-guide suprême qui disent il s'intéressait à la poésie et il jouait de la cornemuse.
Oui.
Voilà. Non. Si. Là, il y a
Jouait de la cornemuse.
Mais non. Je pense qu'il a joué un morceau à son gouvernement. Les mecs ont décidé d'interdire la musique dans la foulée. Défendu pour toujours. Non, mais c'est fou cette info. Quand même, Euronews existe toujours. Savez-vous ? Jouer de la cornemuse. Quel monstre, hein ? La cornemuse. Alors, les Bretons ont tenu à se désolidariser de l'ex-dictateur iranien. Il y a une règle ancestrale. Hein. La cornemuse ne doit pas être jouée dans un pays où l'alcool est interdit. Oui. C'est pas possible. Alors, on déconne, mais si ça se trouve, c'était très apprécié. Et franchement, le tableau, Apolline, vous auriez vu tous les gardiens de la révolution chantaient en chœur pendant que l'ayatollah les accompagnait à la cornemuse. C'est plus fun que ce qu'on croyait, l'Iran. Hein. C'est rigolo. Bon, et puis courage aux 72 vierges qui vont devoir se le farcir pour l'éternité. Oh putain, le lourd. Eh Ali, stop, hein. Je sens que je vais rester vierge, en fait. Hein. Pas comme ça que je vais perdre mon pucelage, moi. Enfin, quand je pense que j'aurais pu tomber sur Jeffrey Epstein. Il est pas dispo, Jeffrey. Il est pas là. Oh putain, il a ramené tous ses potes. Ça va être long, l'éternité. Hein. Vous savez, je pensais pas réussir à caser Michel Sardou, les lacs du Connemara et l'ayatollah Khamenei dans le même paragraphe. Eh bien, c'est chose faite.
Bravo.
On n'aura pas mieux plus qu'on est là-dessus. Eh bien, à demain.
Arnaud, je veux rester avec vous. Je peux pas aller faire les interviews.
Sérieux.
Oh là là.
Sur la guerre et les portables. On est mieux avec Michel Sardou.
Demain. Donc, dans un instant, le face-à-face. Mais d'abord, Nando qui nous appelle dans l'île. Bonjour, Nando.
Bonjour,
vous êtes chauffeur
Apolline,
poids lourd. Eh ben ça va et vous? Est-ce que
ça
vous
va,
les avez vus là? Eh ben exactement, je suis bien contente de vous entendre. Vous êtes dans le camion?
Super. Oui, oui, toujours dans le camion.
Alors, les prix à la pompe?
Eh ben depuis hier 15h, le dernier plein que j'ai fait, ça a pris 12 centimes.
12 centimes entre hier 15h et là ce matin?
Ouais.
Ah ouais, ouais, ouais. Vous avez entendu Jean-Claude tout à l'heure, la pompe à essence de Perpignan, qui dit qu'en fait c'est les fournisseurs, quoi.
Ouais, c'est des fournisseurs, mais moi, avec le patron, on s'était dit de faire le complément des camions hier, mais par hasard, juste au cas où. Bon, on a bien fait, parce que sinon, ça nous aurait coûté un plein.
Ouais,
on l'aurait fait ce matin.
C'est fou. Donc,
juste en faisant le complément.
Vous avez été très, très très intuitif, on peut le dire comme ça, Nando.
Ouais, mais ça a commencé à tremper les pompes à essence, c'est commencé à avoir du monde à ce côté matin. De chez nous, à Clamart. Ouais.
Ce matin, non, hier, là, déjà, ça y est, il y a la queue.
Hier après-midi déjà, ça commençait.
Et ce matin encore, de nombreuses files devant les pompes à essence, c'est ce que vous nous dites sur vos messages. Merci Nando, à la prochaine. Nando qui nous appelait donc d'Orly depuis le camion. Il est 8h21, dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. De très nombreuses questions à lui poser, bien sûr, à la fois sur le sort de nos ressortissants dans la région là-bas, mais aussi au fond, cette question par le jeu même du mécanisme des alliances. Nos alliés étant touchés sur place, que ce soit Abu Dhabi, que ce soit le Koweït, les Émirats, eh bien, est-ce que nous-mêmes, la France, ne sommes pas en guerre ou en tout cas impliqués? Je lui pose la question, bien sûr, dans un instant. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Des frappes ciblées et simultanées à la fois sur l'Iran et le Liban, menées ce matin par Israël, qui promet « ça ne sera pas une guerre sans fin », disait cette nuit son Premier ministre. Benjamin Netanyahou, persuadé qu'il fallait frapper Téhéran maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et que son programme nucléaire ne devienne intouchable. Et après, ça n'est pas à nous de choisir le prochain régime iranien. C'est ce que disait ce matin sur RMC l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa. En France, justement, toujours pas de rapatriement en vue pour les 400 000 ressortissants présents dans la région. Mais un vol commercial en provenance d'Abu Dhabi a pu atterrir hier soir à Charles de Gaulle avec à son bord 247 passagers. Aujourd'hui, le ministre de l'économie recevra les fédérations d'entreprises touchées par la guerre. Les auteurs de la fatwa numérique contre Samuel Paty, de nouveau condamné en appel, l'un à 15 ans de prison comme en première instance. C'est le prédicateur islamiste et il a annoncé ce pourvoir en cassation, les trois autres à des peines inférieures. 1 200 000 euros, c'est la toute première estimation du coût des tempêtes Niels et Pedro et des dégâts qu'elles ont causés dans l'ouest du pays. Estimation réalisée par la Fédération France Assureur. La météo, justement, avec un temps qui sera souvent ensoleillé sur presque tout le pays, à l'exception du Languedoc-Roussillon, des Cévennes et de l'est de la Corse, où vous aurez des nuages, du vent et quelques averses, quelques passages nuageux aussi près de la Manche et autour du Massif central.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité sur RMC et BFM TV, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. De très nombreuses questions à lui poser. D'abord sur la situation de nos ressortissants sur place dans la région, mais aussi sur l'évolution de la doctrine de dissuasion nucléaire. Et cette question, au fond, par nos alliances, sommes-nous déjà en guerre?
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Elles sont évidemment très nombreuses. Des questions d'abord sur la situation de nos ressortissants dans la région, leur éventuel rapatriement. Des questions sur l'évolution de notre doctrine de dissuasion nucléaire et ses conséquences. Et des questions aussi sur nos alliances. Un mot que vous avez prononcé hier. Prête. La France se tient prête. Par le jeu des alliances, nos alliés étant pour certains touchés, sommes-nous de facto impliqués dans cette guerre?
Non, pas de facto, mais chacun le voit. Cette guerre qui a été initiée par les frappes d'Israël et des États-Unis et auquel l'Iran a répondu de manière totalement inconsidérée et indiscriminée, entraîne dans le conflit un certain nombre de pays de la région avec lesquels nous avons des relations, des accords de défense et dans lesquels nous avons des intérêts, y compris des bases militaires. Et donc, ce que j'ai dit hier et ce que le président de la République a rappelé, c'est que la France se tient prête à défendre ses partenaires à leur demande de manière proportionnée et évidemment conformément au principe de légitime défense collective qui est un principe du droit international.
Ça veut dire qu'à tout moment, s'ils nous le demandent, nous interviendrons.
Ça veut dire en tout cas que nous avons le droit d'intervenir et que nous nous tenons prêts à le faire. Évidemment, c'est au président de la République de prendre la décision.
On va prendre le temps justement d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Quand vous parlez de ces alliances, nous avons donc des alliances, nous, la France, avec plusieurs États de la région, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, qui ont été visés ces 48 dernières heures. Vous les avez eu au téléphone. Est-ce que des demandes ont été faites ou est-ce qu'à ce stade, ils ne nous ont pas demandé de les aider?
Ce sont des échanges qui sont en cours à propos du renforcement de leur défense défense, par le biais de mise à disposition d'équipements. Lorsque les décisions auront été prises, elles seront communiquées, mais effectivement, par les canaux diplomatiques, des échanges sont très fréquents, à tous les niveaux, et également par les canaux militaires. Je le redis, il faut bien voir que dans ce conflit, il y a bien sûr les États-Unis et Israël d'un côté, l'Iran de l'autre, mais nous avons beaucoup de pays tout autour, on parlait du Liban à l'instant, qui se retrouvent malgré eux, entraînés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie, et notre responsabilité de partenaire de confiance, de pays concernés, puisque nous avons 400 000 ressortissants dans la douzaine de pays qui sont concernés.
On va prendre le temps, évidemment, de comprendre quel est leur
sort. C'est de ne pas nous mettre la tête dans le sable, et c'est d'apporter des réponses de protection pour ces pays et pour nos intérêts sur place.
En aucun cas offensif, mais pardon, je voudrais vraiment que l'on soit très précis, effectivement, puisque vous laissez entendre au fond que si les décisions, quand les décisions seront prises, elles seront communiquées. Ça veut dire qu'au moment où on se parle, potentiellement l'un de ces pays avec qui nous sommes alliés est en train de nous dire, voilà, moi j'ai besoin que vous vous teniez prêt, vous nous avez toujours dit que vous nous défendriez, nous ne nous déroberons pas s'ils nous le demandent.
On ne se débordera pas. Vous avez bien vu, comme moi, que un hangar d'une base française aux Émirats Arabes Unis a été touché par un drone. Nous sommes là dans un pays avec lequel nous avons des accords de très longue date. Et dans une situation pareille, vous imaginez bien que les échanges se multiplient pour savoir comment à la fois le pays peut se défendre contre de futures attaques et comment la France peut protéger ses intérêts dans ce pays-là.
Vous évoquez effectivement notre base à Abu Dhabi, cette très grande base navale en dehors du territoire français. Elle a été en effet touchée. Est-ce que ça veut dire que sur cette base-là, c'est la France qui est visée ou c'est le territoire plus largement?
On ne peut pas être aussi catégorique, vous savez.
Est-ce que le drone a ciblé la France?
Voilà. Ce sont des dégâts extrêmement limités et uniquement matériels. On ne peut pas avoir la certitude que la France était explicitement ciblée. Donc, on réagit en prenant le temps de l'analyse. La situation est suffisamment grave pour ne pas s'emballer. Mais c'est évidemment l'objet d'un certain nombre de conversations que nous avons avec nos partenaires sur place.
Est-ce que vous pouvez nous confirmer que des rafales français basés à Abu Dhabi sont intervenus au cours du week-end pour neutraliser des drones?
Nous avons, aux Émirats, puisque nous avons cette base navale et cette base aérienne, où nous sommes rendus avec le président de la République, la ministre des Armées, au mois de décembre, pour soutenir nos troupes.
Pour passer effectivement
pour passer
la fin de l'année avec nos troupes sur place.
Ces rafales et leurs pilotes sont mobilisés pour assurer la sécurité de notre emprise.
Vous n'infirmez
et notre
pas
emprise.
Le fait qu'ils soient intervenus donc ce week-end.
Ils ont conduit leurs opérations de sécurisation du ciel au-dessus de nos bases et donc des ennemis.
Le Charles de Gaulle est-il en route ?
Le Charles de Gaulle est en Suède. J'étais moi-même la semaine dernière dans le cadre de ses missions otaniennes.
Il y est encore ?
Bah, écoutez, moi j'y étais vendredi dernier. Il y était, je vous le confirme.
Donc vendredi il y était, mais vous ne voulez pas nous dire si aujourd'hui il y est encore ?
À ma connaissance, il est dans le nord de l'Europe.
Dans le nord de l'Europe, mais peut-être en train de sortir de la mer Baltique.
Pas à ma connaissance.
Il y a des frégates multimissions qui sont en exercice autour de Toulon. Est-ce qu'elles pourraient, elles aussi, se rendre sur place, potentiellement?
Rien n'est exclu.
Je comprends votre prudence, hein, mais
comme je vous le
rappelais, questions sont très précises, mais je comprends effectivement que, de votre côté, il soit difficile de me donner ces informations, mais je pense que c'est important que les Français comprennent, quand vous dites « la France est prête », jusqu'où?
La France est prête à se protéger ses ressortissants, protéger ses intérêts dans la région et ses partenaires. Elle dispose de moyens dont certains sont déjà disposés parce que avant la guerre, il y avait des exercices ou des opérations dans la zone. D'autres sont à la disposition du chef de l'État pour, s'il le juge opportun, apporter ce niveau de réassurance, soit pour nous-mêmes, et dans le cadre d'éventuelles opérations de protection, soit pour nos partenaires, parce qu'une présence, une simple présence, que ce soit en mer Rouge ou en Méditerranée, a un effet dissuasif.
Une question maintenant sur nos ressortissants, avec deux volets. L'un qui est la question de la menace qui pèse sur eux, en restant sur place, dans une zone qui peut être touchée, et l'autre, c'est la question aussi de leur éventuel retour, voire rapatriement. D'abord, sur le danger imminent ou non. À l'aube, l'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite à Riyad a été touchée par des drones iraniens. L'ambassade des États-Unis au Koweït l'aurait été un peu plus tôt dans la nuit. Est-ce que vous avez un message à faire passer, ou avez-vous fait passer un message au personnel, notamment des ambassades françaises sur place? Est-ce que vous estimez qu'ils pourraient être eux aussi visés comme le sont les Américains?
La situation, pour des raisons évidentes, est différente. une ambassade américaine n'est pas exposée comme l'est aujourd'hui une ambassade française. Ceci étant dit, vous avez raison de le rappeler, ça me permet de saluer le courage, l'engagement et le professionnalisme des agents de nos ambassades dans la région. Nous sommes très vigilants à ce que l'évolution de la situation ne les place pas en situation de danger, précisément. Ensuite, vis-à-vis de nos ressortissants, les conseils sont très clairs. La plus grande prudence, le respect strict des consignes qui sont données par les autorités locales, et puis ensuite, en fonction de la situation des pays, des voies de sortie aérienne ou terrestre, eh bien, de les emprunter en suivant constamment les consignes de sécurité qui sont données sur le site et actualisées régulièrement, je l'ai vérifié ce matin, sur le site diplomatie.gouv.fr.
Jean-Noël Barrot, combien de Français sont précisément sur place? Ont-ils tous été à peu près localisés? Et allez-vous les rapatrier pour certains?
On a 400 000 ressortissants français dans la douzaine des pays qui sont aujourd'hui concernés par la situation. Pour l'essentiel, ce sont des Français qui résident dans la région, y compris des binationaux. Pour d'autres, ce sont des Français de passage. Ces Français de passage, nous les invitons, pour pouvoir les recenser, pour pouvoir savoir où ils sont, à s'inscrire sur le fil Ariane, sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À ce stade, c'est plus de 25 000 personnes que nous identifions comme Français de passage s'étant inscrits. C'est vers eux, bien sûr, que nous nous
tournerons.
Vous
avez un chiffre là-dessus? Vous avez eu l'information sur combien, dans ces 400 000, combien sont de passage?
Par définition, je n'ai pas ce chiffre, puisque quand on est de passage...
Mais combien sont en tout cas inscrits depuis 24 heures?
Plus de 25 000 personnes.
D'accord.
Pardon, les 25 000 personnes, c'est celles qui se sont inscrites, celles qui s'étaient inscrites avant le début des opérations militaires, et celles qui se sont inscrites depuis. Et j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire pour que nous puissions les localiser.
Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite, une fois qu'ils seront localisés?
Eh bien, nous allons continuer à leur faire parvenir les consignes de sécurité et les informations pour faciliter leur retour en France.
C'est-à-dire, c'est à eux, par leurs propres moyens, de rentrer.
Nous allons faciliter d'abord le retour en France chaque fois que ce sera possible. Nous avons, par exemple, mis en place aux frontières entre l'Israël et l'Égypte et la Jordanie des équipes consulaires qui, à la frontière, ont facilité le passage des ressortissants français qui souhaitent sortir par la voie terrestre et puis ensuite emprunter un vol depuis l'Égypte ou la Jordanie.
D'accord.
Le même dispositif, qui avait déjà été éprouvé lors de la guerre des 12 jours, est aujourd'hui mis en place aux Émirats Arabes Unis, aux frontières avec Oman et aux frontières avec l'Arabie Saoudite. Deux pays dont, jusqu'à présent, l'espace aérien est ouvert. En parallèle, nous renforçons nos équipes sur place, qui sont très sur le pont depuis 72 heures, et nous renforçons nos équipes à Paris pour que la réponse téléphonique, qui est assurée jour et nuit, puisse se faire sans délai d'attente. Et enfin, nous nous préparons à des affrètements de vol pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier.
Dans ce cas, ce seraient des avions de la République française ou des avions mobilisés par la République française qui pourraient rapatrier. Quand vous dites les plus vulnérables, ça veut dire quoi? Ça veut dire les plus vulnérables physiquement, ça veut dire les plus vulnérables, j'allais dire, socialement, qui n'ont pas les moyens de rentrer par leurs propres moyens. Sur quels critères estimez-vous qu'ils sont les plus vulnérables?
Vous m'avez posé deux questions. La première, c'est le type de vol. Eh bien, il y a toutes les possibilités. Il y a des vols commerciaux sur lesquels on peut, on parvient à obtenir des blocs de place. Il y a des vols que nous pouvons affréter, des vols civils que nous pouvons affréter. Il y a aussi des possibilités qui pourraient se présenter ou que nous pourrions solliciter d'avions de la République française. Ensuite, s'agissant des personnes vulnérables, ce sont les postes diplomatiques, les ambassades et les consulats qui sont au contact de nos ressortissants sur place, en lien avec le Quai d'Orsay, qui établit ces listes pour que les personnes vulnérables puissent retourner en France en priorité.
Comment vous avez réagi, Jean-Noël Barrot, lorsque vous avez entendu les premiers appels d'un certain nombre, comme on appelle, d'influenceurs qui disaient leur détresse et qui appelaient la France à l'aide?
Moi, je comprends l'inquiétude profonde de nos ressortissants sur place. Je mesure aussi l'angoisse de leurs familles qui, ici, en France, attendent leur retour. Et je leur dis que nous allons, avec toutes les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous mobiliser jusqu'à ce que chacun d'entre eux soit retourné en France.
Vous ne demandez pas, comme les Américains, à tous les citoyens français de quitter immédiatement la région. Votre homologue américaine exhorte les citoyens américains, je cite, à quitter immédiatement les pays du Moyen-Orient en utilisant les vols commerciaux disponibles depuis Bahreïn, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Israël, la Cisjordanie, Gaza, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar et l'Arabie Saoudite, ainsi que la Syrie, les Émirats Arabes et le Yémen. Nous n'avons pas fait de liste comme celle-là, et nous ne demandons pas à tous les Français de
partir. Apolline de Malherbe, j'aimerais pouvoir le faire, mais la plupart des pays que vous avez cités, que vous venez de citer, ont fermé leur espace aérien. Et donc, il est très difficile pour nos ressortissants sur place de pouvoir quitter ces pays.
Mais vous leur dites partir.
Bien sûr, certains pays ont maintenu leur espace aérien ouvert. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, d'Oman, du Liban. C'est vrai aussi des Émirats Arabes Unis, où hier, quelques vols sont partis. Où sont repartis, l'espace aérien s'étant réouvert. Évidemment, pour les Français de passage, nous les invitons à ce que, si les conditions le permettent, ils puissent sortir du pays, et notamment prendre les vols pour ceux qui sont en attente.
Pour les Français de passage, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que les Américains, eux, ils demandent à tous les Américains de partir.
Non, mais attendez, la priorité, c'est évidemment la sécurité pendant ces opérations militaires de nos ressortissants, de nos intérêts, mais c'est aussi d'aller au plus vite à la désescalade, puisque vous voyez bien comment chaque jour qui passe, ce conflit s'élargit et a tendance à s'aggraver. Pardon de revenir au Liban, mais je vois,
j'allais y venir
grâce
ce matin,
aux journalistes
ce
de
matin,
BFM notamment, des images
soldats.
qui me rappellent celles de l'automne 2024, qui a précipité le Liban au bord du précipice. Et si le pays n'y est pas tombé, c'est parce que la France, en lien avec les États-Unis, a obtenu un cessez-le-feu et un accord de cessez-le-feu.
Quel sera le rôle de la France, là, précisément sur cette question du Liban ?
Bien, d'abord de condamner la lourde erreur du Hezbollah qui a entraîné un pays qui était pourtant en train de se remettre sur les rails dans une guerre qu'il n'a pas choisie, de dénoncer les violations par Israël de l'intégrité territoriale du Liban et d'appeler toutes les parties à respecter cet accord de cessez-le-feu qui enfin nous permettait d'entrevoir un meilleur avenir pour le Liban.
La France devait avoir un rôle justement notamment dans le désarmement du
Bien
Hezbollah
sûr.
Que demandent les autorités libanaises qui appellent le Hezbollah à cesser immédiatement toute part au conflit. Est-ce qu'il est encore temps pour la France justement de proposer son aide sur ce point-là ?
Merci de rappeler que les autorités libanaises hier ont été très claires. Elles ont dénoncé les frappes menées par le Hezbollah sur le nord d'Israël. Elles ont appelé à son désarmement. Elles ont déclaré comme illégale la branche armée du Hezbollah. Et ce désarmement, il est indispensable, il est essentiel. Nous l'appelons de nos voeux et nous ne faisons pas que l'appeler de nos voeux. Nous avions prévu d'organiser ce jeudi une conférence consacrée au renforcement des forces armées libanaises, celles qui doivent disposer du monopole des armes. Cette conférence, nous espérons pouvoir la tenir au plus vite, mais pour ça, il faut bien sûr que l'escalade militaire puisse s'arrêter dans la région.
Deux nouvelles alliances, en quelque sorte, se sont dessinées aussi ces 48 dernières heures. Paris, Londres, Berlin, qui ont parlé d'une seule et même voix en disant qu'ils étaient prêts à des actions défensives. Et puis, hier, Emmanuel Macron qui a annoncé donc que la France entrait dans une nouvelle étape de sa dissuasion nucléaire, avec une dissuasion avancée, avec un certain nombre de nouveaux partenaires. Est-ce que ça veut dire, en quelque sorte, qu'ils deviennent, j'allais dire presque nos petits frères, ou est-ce qu'ils sont nos partenaires à égalité ? C'est-à-dire qu'on garde, nous, l'autorité décisionnelle, mais on partage avec eux la protection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire concrètement ?
Bien sûr, c'est un discours historique qui fait franchir une étape à notre dissuasion, qui est un trésor national et qui va rester indépendante et française de bout en bout. Plus précisément, l'appréciation des intérêts vitaux appartiendra uniquement au président de la République et la décision d'emploi de l'arme nucléaire appartiendra exclusivement au président de la République. Mais il y a deux dimensions nouvelles. La première, c'est que nous allons durcir notre dissuasion en relevant notre arsenal, le nombre de nos têtes nucléaires. Le deuxième élément majeur, c'est que nous allons créer des coopérations nouvelles avec les pays européens dans le cadre de cette dissuasion avancée qui va leur permettre de participer à des exercices, de s'associer à des manœuvres de signalement ou de pouvoir accueillir sur leur sol des déploiements de circonstances. C'est ce qui, a, ce qui est
ça
très avantageux pour nous.
Potentiellement, nous aurions des armes atomiques qui seraient situées, localisées en Allemagne, par exemple.
Ou en tout cas des capacités militaires qui pourront ainsi se disperser, compliquer le calcul de l'adversaire.
Mais pour autant, si un jour l'Allemagne, par exemple, nous dit « Écoutez, je suis menacée, il faut activer la bombe », on pourra toujours dire non ?
C'est le président de la République qui appréciera souverainement si les intérêts vitaux de la France sont effectivement concernés. Et c'est lui qui, sur cette base, appréciera souverainement l'opportunité de faire emploi de l'arme nucléaire. Et cette dissuasion nucléaire restera intégralement financée par la France, par les contribuables
français. Intégralement financé, ça veut quand même dire qu'ils vont pouvoir en profiter, mais c'est nous qui payons ?
Nous développons avec eux des projets de coopération pour tout le volet de notre sécurité qui n'est pas nucléaire. C'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire le volet conventionnel. Les systèmes d'alerte pour savoir quand des missiles, nucléaires ou non, entrent dans nos espaces ou se dirigent vers nos espaces aériens. La défense antiaérienne, comment... C'est le grand sujet du moment,
évidemment,
dans la guerre avec l'Iran.
Évidemment, avec le fameux dôme de fer.
Et puis ensuite, ce qu'on appelle maintenant, qu'on a pris l'habitude de ce terme depuis la guerre en Ukraine, les frappes dans la profondeur, qui est une arme offensive, mais qui a vocation à gérer une escalade militaire sous le seuil nucléaire, puisqu'on a vu avec la guerre en Ukraine qu'on pouvait avoir une très forte intensité de conflictualité, de guerre, sans que les seuils nucléaires ne soient franchis. Et donc ces projets de coopération, c'est à l'échelle européenne qu'il faut les mener, et c'est aussi une manière pour nos partenaires de contribuer à la défense du territoire national par le développement de ces projets communs.
Merci beaucoup Jean-Noël Barrot d'avoir accepté de faire le point sur RMC et BFM TV ce matin. Vous êtes ministre des Affaires étrangères. Je voudrais également redonner le numéro de la cellule de crise. Vous l'avez évoqué. Je donne ce numéro donc pour tous ceux qui nous écoutent de l'étranger et qui ont besoin d'informations, 01 43 17 51 00. Comme ça, c'est dit. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir accepté de répondre à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jean-Noël Barrot était mon invité ce matin et nous avons évidemment parlé de l'Iran. Dominique de Villepin, vous souhaitiez réagir?
Oui, bonjour. Dominique Villepin, ex-ministre des Affaires étrangères, mais toujours bien sûr top modèle de la diplomatie. Souvenez-vous de la façon, Madame de Malherbe, dont j'avais séduit le monde en m'opposant à la guerre en Irak. Le verbo à la proue du bateau monde, tel DiCaprio sur Titanic.
Oui.
Aujourd'hui, vous venez de recevoir dans vos locaux ce jeune ministre des Affaires étrangères pour son stage de troisième. J'ai très bien compris que j'étais pour lui une sorte, disons-le, d'inspiration. Alors je lui dis bonne chance, jeune Padawan.
Bon, sur ce conflit, monsieur de Villepin, la France a déclaré ne pas avoir été prévenue ni impliquée.
Écoutez, c'est une totale incompréhension. Comment, je dis bien comment, car je monte sur mes grands poneys. Comment la France a pu être ainsi oubliée, je dirais même ostracisée. Du temps où j'étais aux Affaires étrangères, vous en souvenez, jamais, je vous le dis bien, jamais on ne m'aurait laissé de la sorte sur le bas-côté. Comment, je le dis, le chef de la diplomatie, Jean-Noël Bulot, a-t-il pu être ainsi ignoré ?
Jean-Noël Barrot, monsieur de Villepin.
Oui, Barrot, peut-être. Bon, enfin, peu importe. Je poursuis mon envolée. Comment, je dis bien comment, le président Trump a-t-il pu ne pas informer au moins notre ministre des Armées, Catherine Vacherin?
Non, c'est Catherine Vautrin.
Mais on s'en fout de la vieille. De grâce, ne m'interrompez pas pour ce genre de détails.
Ah, pardon.
Hein, aujourd'hui, le plus important, c'est que le Qatar me demande des conseils en ces jours graves. Et pourquoi est-ce là l'essentiel, je vous le dis, madame de Malherbe? Parce que quand je vois ce que je facture au Qatar en temps de paix, vous imaginez comment je me gave en temps de guerre.
Merci, monsieur de Villepin. Ce matin, Marc-Olivier Fogiel est avec nous pour les titres. Bonjour, Marco.
Oui, bonjour, Apolline. Oh, la vache, ça pète de partout, ça dort. On peut ressortir tous les jingles qui font peur, les habillages rouge vif, les bandeaux, édition spéciale, super spéciale, en direct exclusif, sur place, de là où on est, au moment où ça pète, pile au moment où vous regardez, en exclusivité, super spéciale. Je peux vous dire qu'un ministre, un missile, pardon, qui tombe. Oui, un missile, pardon. Oh, ma langue a fourché.
Un missile qui tombe sur un immeuble juste derrière le reporter avec une grosse fumée noire. Hein, c'est quand même autre chose que les agriculteurs qui font des barbecues tout pourris avec des pneus qui puent. Allez, c'est parti pour les tisanes, Apolline. Après 4 jours de guerre, le régime iranien rappelle son droit à protéger son peuple des attaques étrangères pour pouvoir mieux le massacrer lui-même. Et puis Iran, toujours après, avec la mort de l'ayatollah Khamenei, l'Iran a perdu son guide. Mais une question, un guide, est-ce vraiment nécessaire? Rappelez-moi, Pauline, depuis quand, de combien de décennies, l'Iran n'est plus une destination touristique?
Merci Marco. Le conflit au Moyen-Orient fait craindre une flambée des prix du pétrole qui pourrait atteindre 120 dollars le baril. Bruno Le Maire, tiens, vous êtes là, bonjour.
120 dollars le baril, non mais c'est génial. Une opportunité unique, Madame de Malherbe, pour relancer l'économie du pays. C'est inespéré.
Mais comment ça?
Mais c'est tout con. Vous allez à une station-service, vous remplissez un jerrycan, ça vous coûte 40 balles, et samedi, vous le revendrez 150. Vous imaginez à quel but?
Ah ouais.
Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de remplir un jerrycan. Donc vous remplissez juste une tasse à café ou un dé à coudre. Hein, ça marche aussi. Même les pauvres peuvent participer.
Oui, ça se tient, ça se tient.
Oui, et on peut même aller plus loin même de merde. Ah. Moi, si j'étais à la place de Le Cornu, je ferais comme au poker. All-in, je miserais tout le budget de la France pour acheter des barils. Hein, fin de semaine, on les refourgue et je peux vous dire qu'on les rembourse, nos 3 000 milliards de dettes. Hein. Et vous savez pourquoi on ne le fait pas? Vous savez pourquoi on ne le fait pas?
Non.
Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Mais parce que je ne suis plus au gouvernement.
Ah, mais c'est ça! Mais bien sûr. Mais voyez, c'est parce que vous n'êtes plus au gouvernement.
Mais oui, le redressement d'un pays, vous voyez, ça ne tient à rien.
Ah ouais.
J'ai bien retourné le truc.
Je me suis refait une image de winner. On peut le dire comme ça. Merci Bruno Le Maire, en tout cas, pour faire un point sur la situation au Proche-Orient. On retrouve tout de suite Christophe Delay, tiens, certainement le journaliste le plus précis de toute la rédaction de BFM TV. Bonjour Christophe, où est-ce qu'on en est?
Oui, bonjour Apolline. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure qu'il est, c'est-à-dire à 8h57 à l'instant, heure de Paris, c'est-à-dire 11h27, soyons précis, heure de Téhéran, nous dénombrons très exactement, vous m'interrompez si je m'égare, on dénombre très exactement 41 missiles tirés, donc, par les Iraniens sur leurs voisins du Golfe, alors que du côté américain, nous en sommes très exactement à, soyons prêts.
Christophe, pardon de vous interrompre, mais là, ça bouge à l'instant sur Dubaï.
Oui, allez-y, Didier François, vous êtes notre envoyé spécial, je rappelle, dans le Golfe, en direct, bien sûr, des studios de BFM sur place dans le 15e à Paris. C'est dire si vous connaissez le terrain. Didier François, dites-nous en plus, cher Didier François.
Oui, donc le score vient d'évoluer sur Dubaï avec un nouveau missile iranien en pleine lucarne de l'hôtel Four Seasons.
Merci, cher Didier François, pour ces précisions. Donc cela, vous m'interrompez si je m'égare, cela porterait donc, je parle bien sûr au conditionnel, le score à 42 missiles iraniens, soyons précis, et du côté américain, nous en sommes très exactement à...
Christophe, nouvelle frappe américaine cette fois, autant pour moi, Christophe, elle a été interceptée par le gardien de la Révolution.
Écoutez, vous avez bien fait, cher Didier François, de nous interrompre, car la priorité, je rappelle, sur BFM est au direct. Le score reste donc, soyons précis, le score est précis, donc 117 missiles et demi pour les Américains, tandis que de leur côté, les Iraniens sont...
Pardon, Christophe, vous interrompre, mais là, ça s'agite vraiment du côté du Koweït, où après la chute d'un avion F-15, les Américains sont en train de demander la VAR. Oui, la VAR, et à l'instant, l'arbitre qui ne valide pas le point pour les Iraniens, puisqu'il s'agit d'un tir de la défense koweïtienne, donc contre son camp. Apparemment, voilà où on en est.
Merci, cher Didier François. Écoutez, nul doute que nous en parlerons bien sûr ce soir avec Daniel Riolo et Gilbert Bibois dans l'After Frappe. Et dès 18h, bien sûr, sur RMC, dans Rotten sans flamme et le Moyen-Orient aussi. À vous, chère Apolline.
Merci, Christophe Gelet. Merci, Nicolas. On se retrouve dès demain, 8h50 sur RMC. Et à tout moment, en podcast, dans un instant, les GG avec Alain.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Les grandes gueules dans un instant en direct sur RMC et RMC Story. Avec ce contexte international, ce contexte de guerre, on reviendra bien évidemment sur les conséquences de cette guerre au Proche-Orient avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les prix à la pompe? Il y avait, paraît-il, déjà des files d'attente là pour faire le plein. Vous venez en discuter avec nous au 32-16. La dissuasion nucléaire, Emmanuel Macron qui dit pour être respecté, il faut être craint, il va augmenter la dissuasion nucléaire française. Est-ce que c'est raisonnable ou inquiétant? On aura le député Jérôme Guedj, député socialiste, pour savoir s'il faut un débat à l'Assemblée nationale sur la guerre au Proche-Orient. Le rapatriement des Français, bref, voilà, plein de questions qu'on va se poser avec les grandes gueules, sur lesquelles vous allez pouvoir apporter des éléments de réponse avec nous au 32-16, bien sûr, avec Charles Consigny, Jean-Loup Bonamy et Zorabiton.